Est-ce que le compte est bon? Car tout porte à croire que les Tiégars ont toute la France contre eux.
Dangerous, dangerous, dangerous.
Au départ à Benoît, c'est pas une nouveauté.
Dangerous.
Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences, on n'a jamais de chance.
Dangerous, dangerous, dangerous.
On est soudés, solides et solidaires.
Encore pire, si c'est là-dedans que je dois m'habituer, c'est là-dedans que j'ai envie de tuer. Est-ce que je demande ma liberté me soit restituée?
Besoin d'évasion, évasion, évasion, effort d'imagination. Ici tout est gris, les murs, les esprits, les rats la nuit. On veut s'échapper de la prison.
Libérez,
je dois m'évader, ça c'est déjà fait, je sais que c'est possible.
Aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler ce qu'on appelle la lutte anticarcérale.
Bonjour.
Salut.
Vous êtes sur Radio Kaleidoscope 97 FM et vous écoutez l'émission Les Murs ont des oreilles. Les Murs ont des oreilles, c'est une émission contre la tôle et contre tous les enfermements et c'est tous les troisièmes mercredis du mois de 19h à 20h. Alors aujourd'hui, on va vous parler de différentes choses pendant cette émission. Plusieurs infos qu'on avait envie de relayer. Alors notamment, on va d'abord parler de la situation des personnes trans dans les prisons en France. Ensuite, on va relayer différents extraits de montages qui sont passés sur une émission qui s'appelle Méga Combi sur Radio Canu à Lyon. Différentes interviews de personnes qui nous racontent leurs conditions d'incarcération. On va parler du projet de renouvellement urbain qui existe sur les prisons de Saint-Paul et Saint-Joseph à Lyon. On va vous faire une petite présentation du dernier numéro de L'Envolée et on va évidemment aussi vous parler de brèves contre la prison qu'on a envie de relayer. Alors on commence tout de suite par une mauvaise nouvelle puisqu'on a appris la mort samedi 17 novembre dernier de Nathalie, une femme trans incarcérée au centre de détention de Caen qui s'est pendue dans sa cellule. Elle venait d'apprendre que son recours pour obtenir l'autorisation d'utiliser le prénom Nathalie avait été rejeté et écrivait une énième lettre pour demander une prise en charge médicale. Alors d'abord, on est triste et en colère, comme à chaque fois qu'on entend parler de personnes qui meurent en prison, car c'est bien l'enfermement et le système carcéral qui tuent des dizaines de personnes tous les ans. Il faut dire aussi que le système carcéral est souvent le reflet, parfois amplifié, de toutes les oppressions qui existent dans notre société. Racisme, sexisme, homophobie, transphobie sont omniprésents dans les tôles de France, souvent bien entretenus par le personnel pénitentiaire. Donc c'est l'occasion pour nous de revenir un peu sur la situation des personnes trans en prison en France. Il n'y a évidemment pas de statistiques officielles sur le nombre de personnes trans incarcérées en France. Seuls quelques cas plus médiatisés sont arrivés jusqu'à nos oreilles. Et à chaque fois, c'était des cas de personnes qu'on appelle M2F, c'est-à-dire des personnes qui sont nées et qui ont été socialisées comme garçons, mais qui ne se reconnaissent pas dans cette identité de genre et qui souhaitent donc acquérir une identité plus féminine, voire pour certaines d'entre elles devenir officiellement femmes. Donc selon l'OIP, l'Observatoire International des Prisons, les personnes trans représentent une infime minorité de la population carcérale en France, mais les prisons de Fleury-Mérogis, de Caen ou de Marseille en accueillent quelques-unes en permanence. À Fleury, il y a même un quartier qui leur est réservé, après que trois matons ont été condamnés pour viols répétés sur des détenus transsexuels en 1999. Du coup, depuis, ils ont ouvert un quartier réservé aux trans.
Ce qui est complètement fou, parce qu'en fait, les matons, ils vont quand même dans les quartiers spéciaux.
Oui, mais c'est toujours les tactiques de l'AP pour faire croire qu'elle prend en main la situation. À la différence des autres prisons, au moins à Fleury, donc les personnes qui sont placées dans ce quartier, elles reçoivent la visite toutes les semaines d'une membre d'une association d'aide aux personnes trans, et elles ont la possibilité de cantiner des produits auxquels elles n'auraient pas forcément accès ailleurs. Et alors encore une fois, l'hypocrisie de l'administration pénitentiaire, en théorie, le personnel pénitentiaire a été formé sur ces questions-là particulièrement, et selon la presse dominante, l'accès aux traitements hormonaux serait plus facile qu'ailleurs. Il faut savoir que déjà, à l'extérieur, faire un parcours de transition, c'est quelque chose de très compliqué. Il faut, pour faire un parcours officiel, il faut être inclus et suivi par une équipe de professionnels autoproclamés qui valident les parcours de personnes qui veulent transitionner. Une équipe qui est constituée d'un psychiatre, d'un psychologue, d'un endocrino et d'un chirurgien. Et ça passe par 2 ans de suivi psychologique et psychiatrique au minimum, puis plusieurs étapes qui sont toujours hyper difficiles. Où c'est vraiment du contrôle tout le temps de la part des médecins. Donc c'est aussi des conditions hyper strictes et parfois absurdes, comme par exemple l'équipe de Lyon. Dans les conditions pour passer dans ce parcours, il y a ne pas avoir fait de travail du sexe, ne pas être séropositif, enfin, voilà, des choses un peu absurdes comme ça. Du coup, c'est très compliqué d'être dans ce parcours-là, et plein de personnes du coup, ne font pas le parcours officiel et se démerdent par elles-mêmes pour se procurer les opérations, les hormones et tout le reste. Et en prison, donc, la situation de ces personnes est d'autant plus violente qu'elle est soumise au bon vouloir et souvent à l'ignorance et au mépris de l'administration pénitentiaire. Beaucoup d'entre elles se voient refuser de se faire appeler selon le nom et le pronom qu'elles ont choisi, ne peuvent pas cantiner des habits ou des produits d'hygiène comme elles le voudraient. Elles sont placées officiellement pour leur sécurité en isolement renforcé, ce qui les coupe de tout lien humain, mais aussi de toute sortie de cellule ou de toute activité. Sans compter les humiliations au quotidien, voire les agressions sexuelles de la part des autres détenus ou du personnel pénitentiaire. Il y a un cas qui était un peu plus médiatisé que les autres, c'est celui de Chloé, qui est détenue au centre de détention de Caen, et qui est la première transsexuelle en prison à avoir commencé un traitement hormonal derrière les barreaux, et également la première transsexuelle en prison à demander à se faire opérer. Donc pendant des années, toutes ces demandes n'ont débouché de la part de l'UXA, donc l'unité de consultation et de soins ambulatoires, que selon ses propres mots, sur du mépris, de l'intolérance, de l'homophobie. Lorsqu'elle a demandé une vasectomie, la seule réponse qui lui a été faite, ça a été « faites-le vous-même », ce qu'elle a fait, de même que l'ablation des testicules. Une fois de plus, l'UXA et l'administration pénitentiaire ne l'ont pas du tout aidée, au contraire, jusqu'à ce qu'elle soit amenée aux urgences, à la limite de la septicémie, et finalement transférée à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes, où elle a pu enfin recevoir les soins dont elle avait besoin. Depuis, elle se bat pour être reconnue officiellement en tant que femme, et notamment pour être placée dans le quartier femme de la prison, car elle ne souhaite pas aller dans le quartier réservé aux transgenres de Fleury. Il faut dire que donc, à part dans ce quartier de Fleury-Mérogis où il y a quelques personnes qui sont placées, la plupart des détenus transsexuels sont toujours placés dans le quartier de leur genre d'origine, c'est-à-dire par exemple que les personnes M2F sont placées en quartier homme. Donc la situation de Chloé, qui bénéficie du soutien de nombreuses associations à l'extérieur, a quand même permis de mettre un peu en lumière cette situation, avec notamment une enquête du contrôleur général des lieux de privation de la liberté, M. Delarue, qui a rendu un rapport le 30 juin 2010, dans lequel il constate les situations particulièrement difficiles, c'est-à-dire encore plus que pour les autres détenus, dans lesquelles vivent les personnes trans emprisonnées en France. Donc il fait plusieurs recommandations pour améliorer cette situation. Alors notamment, il déclare que les personnes trans, comme les autres détenus, doivent bénéficier de bonnes conditions de soins, d'informations sur les traitements qu'elles prennent, et notamment, elles doivent avoir la possibilité de suivre le parcours de soins qu'elles souhaitent. Il affirme aussi que leur vie privée doit être respectée, notamment dans le choix de leur prénom, dans leur manière de s'habiller, et dans le respect de leur intimité. Et pour ce qui est du placement, il conseille de placer les personnes concernées au plus tôt dans les établissements ou dans les quartiers correspondant à leur nouvelle identité sexuelle, et en évitant le plus possible l'isolement et en privilégiant l'encellulement individuel. Bon, c'est bien ce que valent les rapports du contrôleur général, qui sont souvent de belles déclarations de principe assez peu suivies d'effets dans la réalité, tout simplement parce que les prisons sont surpeuplées, que l'administration pénitentiaire n'a pas du tout envie ni intérêt de modifier sa manière de faire, et parce que ces recommandations servent surtout de faire valoir aux autorités pour faire croire qu'il serait possible de réformer les prisons pour les rendre plus acceptables. Néanmoins, ce rapport constitue une première reconnaissance officielle de l'existence de détenus trans en France, et des pistes pour améliorer légèrement, au moins sur le papier, leurs conditions de détention. Il faut savoir que dans d'autres pays, la question de l'incarcération des personnes trans se pose de manière un peu différente. En Italie, par exemple, il y a une prison spéciale réservée aux transsexuels qui a ouvert début 2010. On ne sait pas s'ils sont plus heureux là-bas, mais au moins, peut-être que c'est un peu moins difficile le rapport aux autres détenus. Aux États-Unis, il y a plusieurs prisons qui ont des quartiers réservés aux transsexuels aussi. Il faut dire qu'aux États-Unis, au moins une personne transgenre sur deux a été emprisonnée au cours de sa vie. Et en Angleterre, en 2010, un juge a évité une peine de prison à une personne trans, ne lui donnant, entre guillemets, que du sursis, car il ne voyait pas comment la personne pourrait être en sécurité en prison, même si l'administration pénitentiaire montrait la meilleure volonté du monde. Alors un éclair de lucidité de la part d'un juge, c'est toujours assez rare pour être souligné, mais dans ce cas-là, on a envie de lui dire de pousser la logique jusqu'au bout. La prison tue, avec en moyenne une mort dite suspecte tous les 3 jours. Alors c'est bien la prison le problème et pas les conditions de détention. Dans ce cas-là, change de métier, arrête d'envoyer les gens en tôle. Alors si on a envie de soutenir les personnes trans qui luttent pour la reconnaissance de leur identité en prison, comme tous les prisonniers et toutes les prisonnières en lutte, c'est bien parce qu'on a conscience que la prison elle-même est l'un des éléments essentiels de la société, d'une société marquée par des rapports d'oppression multiples, et qu'on a envie de s'attaquer à tous ces rapports en même temps. Parce que la lutte contre la prison ne peut pas se dissocier de la lutte contre le racisme, le sexisme, le capitalisme et ses rapports de classe, l'homophobie et la transphobie. Tous les rapports de domination qui font que la société se maintient.
J'enchaîne avec Mégacombi. Alors, Mégacombi, c'est une émission qui passe régulièrement sur Radio Canu, et donc une radio qui passe à Lyon. Et dans la dernière, il y avait une thématique spéciale qui était la prison, et on a trouvé quelques montages qu'on a trouvé intéressants et qu'on a eu envie de rediffuser. Donc on va commencer avec un petit extrait, c'est quelqu'un qui parle en fait de comment ça se passe quand il y a des mouvements en tôle et donc des blocages de mouvements, c'est-à-dire principalement des refus de remontée de promenade. Il faut savoir en fait que ces mouvements qui sont une des manières d'exprimer son désaccord, sa colère, son refus d'obéir, etc. Il y en a plein en fait des mouvements comme ça, ils s'en passent très souvent, très régulièrement, dans plein de tôles, et ça on l'apprend notamment quand on lit les déclarations des syndicats de matons qui se plaignent toujours des conditions dans lesquelles ils travaillent en disant qu'ils se sentent en insécurité, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, et donc c'est de cette manière là qu'on peut capter aussi qu'il y a plein de mouvements de lutte et de révolte à l'intérieur des prisons et dont on n'entend pas parler évidemment parce que c'est des informations qui sortent peu, que les journaux les relayent pas et que s'il n'y a pas des personnes à l'intérieur qui font sortir ces infos-là, souvent on n'en a pas connaissance du tout. Voilà, donc on encourage justement la diffusion de ces informations-là au maximum. Et on va écouter un tout petit bout, pour commencer, de quelqu'un qui parle un peu de ça.
Quand on a des défauts revendiqués, on fait des blocages de mouvement. On est tous en sport ou promenade, et au lieu de remonter à l'heure prévue, tout le monde s'arrête et personne ne remonte, jusqu'au moment où ils vont chercher les IRIS.
Alors les IRIS, c'est quoi exactement ?
C'est des surveillants entraînés, on va dire, parce qu'ils sont pas bien entraînés, ces gens-là. Comme la police, vous savez, dehors, quand il y a des émeutes, ils sont, on dirait, des tortues ninja. Ils sont tout casqués, tout protégés, on dirait qu'ils font du skate, quoi. Avec des... Oui, ils ont des sortes de télescopiques qui font bien mal. Et certains ont des fusils à pompe. Mais bon, dedans, bien sûr, c'est que des balles caoutchouc, je crois. Ça fait bien mal aussi.
Et alors, du coup, quand il y a des blocages comme ça, c'est quoi, justement, les revendications ?
Oh, ça peut aller de tout à rien. Ça peut aller pour une console, pour une plaque chauffante. Souvent, les frigos, des fois, ça marche mal. Donc, au bout d'un moment, ça saoule les gens parce qu'on est obligé d'attendre et d'attendre et d'attendre. Et nos cantines dedans, elles pourrissent, vu qu'on a du frais. Ça, voilà, quoi, ça peut être pour tout et pour rien. pour vous, ça vous paraît simple, bah, pour nous, non. À l'intérieur, c'est pas si simple que ça d'y avoir, quoi. Un peignoir, c'est con, pourtant, c'est simple. C'est quelque chose qu'on se met sur soi pour aller de sa cellule à la douche, et ben non. C'est considéré comme un luxe. Donc on n'a pas le droit au luxe, au confort, pardon.
Voilà, donc en fait, ce qu'on... On entend aussi dans ce petit témoignage, c'est que n'importe quel acte du quotidien peut devenir un enjeu de lutte, en fait, à l'intérieur, finalement aussi dehors, mais pour se démener dans des conditions de misère. Voilà, après on va passer à un autre montage. En fait, il s'agit de Christine qui est interviewée là et qui raconte un peu... des faits qui lui sont arrivés dernièrement, et en fait on en parle aussi parce que il se trouve que Christine elle va passer en procès à Lyon mercredi, bah finalement au moment où cette émission est diffusée parce qu'on enregistre avant, mais donc il y a des infos qui sortent à ce sujet là parce qu'il y a un appel à solidarité au moment où elle passe en procès. De toute façon, c'est aussi possible de montrer sa solidarité à plein d'autres moments que lors d'un passage en procès. Et donc, on va diffuser cette info. Bon, on va commencer par écouter le montage en question.
Christine est bergère. Christine aime la route et pisser dans l'herbe. Mais Christine est amenée à se rendre régulièrement en prison pour rendre visite à son copain.
Fin juillet, là, je vais au parloir voir un copain. Donc on arrive dans le sas, tac, ils nous mettent tout cela, et un par un, on donne la carte d'identité. Et là, c'est mon tour de passer. Donc je passe, hip, les chaussures sonnent. Donc je défais les chaussures, je repasse, ça sonne pas. Et il me dit, retirez votre veste. Mais non, je retire pas ma veste, ça a pas sonné. Retirez votre veste. Non, je retire pas ma veste. Et là, je commence à m'exciter, à bouger de plus en plus. Et lui, il reste impassible, tu vois, le mec. Probe, je n'attrape pas la provocation. Retirez votre veste. Au bout d'un moment, la colère me prend. Je retire la veste, le t-shirt, le pantalon. Et j'avais pas de soutien-gorge, en plus. Là, je retrouve en culotte devant tout le monde. Et je regarde le mec droit dans les yeux. Lui, le maton, les yeux par terre. Il dit, ça va, là, comme ça, tu vois. Et je repasse sous le portique. Tu vois, ça sonne toujours pas, hein. Pendant ce temps, évidemment, mes vêtements étaient passés au détecteur X et je me rhabille. Et puis, il dit, bon, ben, on va aller au parloir. Vous restez là, vous allez voir le chef. Je dis, hors de question, c'est pas le chef que je suis noir, c'est mon copain. Je veux pas voir le chef, je veux aller au parloir, j'ai pas sonné, j'ai rien. Donc, ils m'ont mis de côté, hein. Le chef est venu, il m'a fait le petit speech, puis ils m'ont laissé aller au parloir. Et surtout, ils ont bien fait d'attention à la fin du parloir, que je croise pas les autres familles, quoi, que les autres familles soient convaincues que j'étais en garde à vue.
De rébellion en outrage, de refus de prélèvement ADN à évasion de garde à vue, Christine finit par être condamnée et se retrouve entre quatre murs.
La talonnière, la cour des femmes, elle est vraiment chouette. Il y a de l'herbe, il y a des petits bancs et tout, les nanas, elles étalent leurs serviettes, elles se bronzent. Et il y a un arbre, un vrai arbre. Et j'étais là, allongée sous l'arbre, et j'ai entendu un piaf. Et j'ai eu envie de monter dans l'arbre pour voir si le nid il était habité. Donc je suis montée dans l'arbre, toutes les filles m'ont dit « Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ?» Je monte dans l'arbre. Évidemment, les matons qui arrivent « Descends-là, descends-là » Je dis bah, « Je monte voir le nid et je redescends. » Et je leur gueule en bas « Ouais, bande de moutons, pourquoi vous leur obéissez ?» Ils m'ont répondu « Ta gueule, la chèvre !» Donc je redescends, et là ils me tombent dessus à 8 pour m'emmener à la cellule d'isolement. À la talonnière, au bout de 10 jours, j'en étais à 5 rapports de discipline. Donc ils m'envoient au mitard. Mais à la talonnière, il n'y a pas de mitard chez les femmes. C'est une trop petite prison, ils n'avaient pas prévu ça. Puis on n'a pas prévu que les femmes se rebellent non plus. Et puis...
Tu t'envoies au mitard,
à Corba. J'avais eu le temps de lire le petit livret qu'ils donnent, et j'arrive en prison. Et ils expliquaient qu'au mitard, t'avais le droit à avoir ton tabac et à bouquiner. Et en fait, il a fallu 18 heures pour que j'aie mon tabac. J'ai mis un bordel phénoménal, j'ai tendu le drap pour qu'il puisse pas... Parce qu'en fait, le mitard, il y a la porte avec l'œilleton où il regarde. Un mètre et demi après, il y a une grille dans laquelle il y a un tout petit trou où ils peuvent passer le bol d'eau chaude le matin pour pas avoir de rien. Et puis, il y a ta cellule où il y a que le matelas et la table, c'est tout. Donc, si tu prends le drap, tu le tends sur la grille, l'œilleton, il est fermé. Enfin, ils peuvent pas voir ce que... Donc j'ai revendiqué, ils sont venus, le directeur est venu. Il y a un moment, ils sont venus assis, ils me font une clé de bras là, dans le dos, en me disant maintenant tu signes le règlement intérieur. Je ne signe pas le règlement intérieur, il dit que j'ai le droit au tabac, le règlement intérieur, je ne vais pas signer ça comme quoi tu m'as donné mon tabac, salaud, il est où mon tabac? Il dit arrête de bouger, arrête de bouger. Et donc, au bout d'un moment, ils disent bon voilà, on envoie le psy quoi. Ils voulaient faire l'entretien médical à travers la grille. Non, ça se passe pas comme ça là. Tu te souviens d'Hippocrate, tu rentres dans la... Oui, mais vous avez l'air énervé. Et alors? Ouais, évidemment, je suis énervé, t'es tout bim. T'es là pour ça, c'est parce que je suis énervé que t'es venu, non? Oui, mais non, tu laisses les matons de l'autre côté, tu rentres. Ou alors tu me fais un papier comme quoi tu refuses de m'observer. Et bon, bon, d'accord, genre, mais vous engagez à pas être violent avec nous. Je dis, si tu me mets pas la main dans le dos, si tu me colles pas au sol, il n'y a aucune raison que je sois violente avec toi. Moi, je veux mon tabac, c'est tout. Et puis, il me dit, ouais, mais là, vous avez l'air vraiment énervé. Peut-être ce serait mieux d'aller à l'hôpital, ça serait moins contraignant. Je dis, t'arrêtes tes conneries, je sais bien, à l'hôpital, on est attaché sur le lit. Là, je suis enfermé en cellule. Oui, mais là, vous vous rendez compte, si énervé comme ça, vous pouvez blesser un surveillant, ça va vous faire encore du pénal. Je dis, mais dis-leur à tes surveillants de pas me toucher, il n'y aura aucun problème. Oui, mais il pourrait vous faire mal à vous, vous seriez mieux à l'hôpital. Bon, au final, ils m'ont envoyé à l'HP, un HP spécial, puisque ça s'appelle l'UHSA, unité hospitalière spécialement aménagée, c'est à Bron, et c'est une annexe de la prison. Ça dépend totalement de la pénitentiaire. Par contre, après, bon, il y a encore des barreaux aux fenêtres, il y a encore des cellules fermées. Mais comme à l'hôpital, la plupart du temps, les portes aussi sont fermées en HP, ça change pas grand-chose. Et là, il n'y a que des types en blanc. Par contre, dès que tu t'énerves, ils disent « Attention, on va appeler les surveillants !» Attaché sur le lit, piqûre dans le cul, jusqu'à ce que tu sois bien drogué. Ça s'appelle du loxapac. C'est un truc qui fait de toi un légume. Tu dors 15-16 heures par jour. Et le reste du temps, tu trouves tout normal. Vraiment, jamais rien de raison de s'énerver. Voilà. T'es là, assis sur le lit, t'attends, ils te disent bah, « Tu veux fumer une cigarette ?» Ouais, alors tu sors. Dis, mais on rentre déjà? Ah bah oui, ça fait 20 minutes, on rentre. T'as plus le truc de dire « Mais attends, c'est une heure la promenade ?» Non, faut que tu rentres. Tu te rassois sur le lit. Et non, c'est efficace. C'est comme si tu te réveilles et que tu te souviens que t'es arrivé, que tu te faisais chier.
Voilà, ça se passe un peu de commentaires, ça aborde plein de sujets en même temps et ça parle bien de comment tu peux prendre la rage et te retrouver dans des spirales sans fin quand tu es à l'intérieur. Et donc pour ce fait particulier là, de ce moment de parloir où elle refuse d'enlever sa veste et où en fait ça n'en reste pas là, elle passe en procès ce mercredi. Et donc il y a un texte public qui a été publié pour que cette information-là elle circule et qu'il y ait de la solidarité qui se développe par rapport aussi à son parcours et à ce qu'elle se mange dans la gueule à répétition. Et c'est ce texte-là qu'on va vous lire. Voilà.
Suite à une altercation avec les matons, en se rendant à un parloir à la tôle de Corba, Christine passe devant le tribunal correctionnel de Lyon le mercredi 19 décembre à 14h. Elle y comparaît notamment pour refus de prélèvement ADN, outrage, rébellion et évasion de garde à vue. Le 8 novembre, elle se rendait à la maison d'arrêt de Corba pour rendre visite à un proche incarcéré. À l'entrée, elle passe sous le portique détecteur de métaux qui ne détecte rien, mais les matons lui demandent pourtant d'enlever sa veste. Elle refuse, considérant que les familles n'ont pas à se déshabiller sur ordre, il suffit qu'on ne fasse pas sonner le portique. La direction arrive et approuve la démarche de ses matons. Christine continue de contester cette mesure. Trois gendarmes sont alors appelés à la rescousse et l'embarquent pour outrage. Elle ne les suit pas volontiers, rébellion. Elle est alors placée en garde à vue. Là, la porte de sa cellule ferme mal. Elle en sort. Quand les flics reviennent quelques heures après, elle n'est pas partie bien loin. Elle fume une cigarette sur le parvis, évasion. Le lendemain, elle est escortée par le GIGN en tôle pour y purger une vieille peine et y attendre aussi le procès du 19 décembre. Ce n'est pas la première fois que Christine est poursuivie pour avoir dénoncé les conditions dans lesquelles se déroule l'accès aux parloirs pour les familles, fouilles arbitraires, délais d'attente avant et après les parloirs, salles d'attente exiguës pour de nombreuses familles, parloirs reportés voire annulés après souvent des heures de route pour s'y rendre. Pour les proches des détenus aussi, la prison est synonyme d'humiliation et d'arbitraire. Autant de raisons d'ouvrir sa gueule et autant de raisons pour l'administration pénitentiaire de jouer la carte du chantage en faisant sauter les permis de visite ou en envoyant les flics lorsque ce chantage ne fonctionne plus. Christine est donc aujourd'hui incarcérée à la maison d'arrêt de la Talaudière à Saint-Étienne. Elle y purge plusieurs peines de prison ferme accumulées ces dernières années suite à de multiples insoumissions à l'autorité de différentes institutions, flics, administration pénitentiaire, institutions psychiatriques, etc. Institution qui, jour après jour, s'attelle à défendre les frontières de la paix sociale en broyant ceux qui s'aventureraient hors de celle-ci. Parce que le rapport dans lequel Christine se débat depuis ce débat n'est pas un rapport individuel entre elle et les institutions, mais bien un rapport social fait d'exploitation et de domination que nous subissons tous quotidiennement. Parce que ces mêmes institutions mettent tout en place pour nous maintenir divisés et isolés. Parce que dans un tribunal ou dans une tôle, un peu de solidarité peut redonner du courage ou appuyer un rapport de force trop souvent en notre défaveur. Soyons nombreux à soutenir Christine face à l'injustice et l'isolement carcéral. Alors pour lui écrire, c'est à Christine Ribelli, R-I-B-A-I-2-L-Y, écrou numéro 35561, MA de Saint-Étienne, rue de la Sauvagière, BP 540, 42350, la Talaudière, CEDEX.
Voilà, et puis on peut rajouter aussi qu'on parle d'elle et de cette situation parce que c'est des infos qui ont circulé, mais en fait c'est une situation qui est très courante et qui arrive à plein d'autres personnes.
Et nous on a eu l'info de ce qui se passe à Christine sur le site internet rebellion.info, du coup c'est possible d'aller consulter pour avoir plus d'infos, notamment par rapport au procès. On va enchaîner avec un petit morceau de musique, et du coup c'est un morceau d'un rappeur qui s'appelle Synapse et qui s'appelle Enfermé dehors, et qui fait le lien entre quand on est à la prison et quand on est à l'extérieur et qu'on est censé être libre mais qu'en fait on l'est pas tant que ça.
Je me suis enfermé dehors, je suis cerné dès lors. Prends des bolides à toute allure, le samedi à tout à l'heure. Jude alors, je commets mes clés, mes papiers, mon adresse, tout ce qui peut leur permettre de m'identifier. Je sais, tout ça n'est qu'un pis-aller. Je suis prisonnier car pensionnaire de ceux qui me ritonnaient. Tu sais bien, c'est macro, lors de cage à lapin. Faut que je fasse le tapin, pour un cadeau sous sapin. De me voir mort à la barre, de me voir à la plonge. Comme ils nous mettent à la pelle, à la longue. Moi je me fous d'être à la page, d'avoir vos types, vos tocs, vos trucs, voir le dernier portard. Oh, mon problème c'est que ma ville a l'air d'un centre commercial. Caméra, qualifie mon comportement de suspect. Je suis perdu alors, dis-moi comment puis-je me trouver. J'en veux mon éprouvette, puisqu'on me met à l'épreuve. Va qu'on dise ce que j'éprouve, dis-moi si tu es libre. Comme un poisson dans le bocal, grain de poussière qui suit sa trajectoire orbitale. Les seules routes d'hier sont celles de ton mental. Prison, barrière, tournant rond pour que dalle. Les rues de la capitale, loin du Capitole. C'est un grand hôpital, partout des corps décapités. Dans toutes les cités se joue le dernier récital. Sur les bancs s'étalent les gens que l'État condamne.
Comme un lion en cage, comme un animal. Je suis captif, pas inactif, j'ai ma tête. Sur le visage, la voix de bétail. Faut que je résiste, faut que j'existe. Juste un instant, on lève car j'ai la rage. Dans une boîte, travaille en boîte. Tu danses en boîte, voix coupante. T'as les yeux devant sa cage. Tu me mets en boîte, t'as les mains moites. Mec, tu bois trop, tu t'habilles, boîte.
Ouais. cache superpose comme des poupées russes. Barreaux des prisons, béton dans les rues, quand les portes se ferment sur un.
Non, c'est privé.
Un maillon de plus scellé sous les sourires des geôliers. Bas les dons, traînant leurs boulets graves sur le pavé sombre. Leur crise qui fait bave devant leur vie sous scellée. Passé sous silence, enfermé sur le sillon. Il trouve une existence libre, comme un point sur un segment. Les mains liées aveugles, pourtant ça rit bêtement. En bâtiment, pour la serrer les jours qui passent. Les jours qui pèsent lourd quand les ennuis s'amassent. En basse-clos, bitume qui lasse trop. Mal à mon esprit, dans mon verre un aspro. Prisonnier d'un regard qui me réduit à un mouvement. Me fixe dans un moment. Dans un jugement,
j'ai honte, je suis peut-être perdu dans le labyrinthe. On m'a eu à la pinte, à l'absinthe, j'ai suivi la douce pente. Trop de pendus à vos suspentes et trop de perdus dans vos rues. Y'a trop d'absents et trop d'exclus, trop peu d'accents et trop de blessés. J'suis tout seul au milieu de tous, faut pas tousser. Tous adossés, faut pas se toucher, ne pas pousser. Appelle-moi comment on fait pour ne pas douter.
Comme un lion en cage, comme un animal. Superactif, pas inactif. C'est ma tactique, j'ai sur le visage ta voix de bétail. Faut que je résiste, faut que j'existe, juste à main. Je relève car j'ai la rage. Je vis dans une boîte, travaille en boîte. Tu danses en boîte, vois qu'on t'emboîte. Les yeux devant sa cage, tu me mets en boîte. T'as les mains moites, mec, tu bois trop, tu t'habilles boîte. Comme un lion en cage, comme un animal. Je suis captif, pas inactif, c'est ma tactique. J'ai sur le visage ta voix de bétail. Faut que je résiste, faut que j'existe, juste à main. Je relève car j'ai la rage. Dans une boîte, travaille en boîte, tu danses en boîte, vois qu'on t'envoie. Les yeux devant sa cage, tu me mets en boîte, t'as les mains moites, mec, tu bois trop, tu t'habilles boîte.
Voilà, alors toujours sur cette problématique du lien entre la prison quand on est enfermé et quand on est à l'extérieur, des fois on se sent aussi un peu en prison. On voulait parler d'un projet qui file pas mal la beuge et qui est celui du réaménagement des prisons de Saint-Paul et Saint-Joseph de Lyon. Donc c'est des prisons qui ont fermé leurs portes en 2008-2009 et les prisonniers qui étaient enfermés dans ces prisons ont été transférés à la nouvelle tôle toute neuve de Corbas. On a déjà eu plusieurs fois l'occasion de parler de Corba, donc la tôle ultra sécurisée, complètement déshumanisée, où la plupart des détenus se sentent encore plus mal que dans les vieilles prisons de Saint-Paul-Saint-Joseph construites au XIXe siècle et qui ont également servi de salle de torture pour la Gestapo durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il faut dire que c'est la politique du pouvoir depuis un moment d'éloigner les prisons des centres-villes, où c'est beaucoup plus facile de s'organiser pour venir rendre visite aux détenus, pour faire des parloirs sauvages, tout simplement pour communiquer entre l'intérieur et l'extérieur. Donc on éloigne les prisons et les personnes qui y sont enfermées, qui n'ont plus leur place dans les villes aseptisées et gentrifiées que les décideurs construisent partout dans toute la France. Selon toujours la même logique de les personnes pauvres, les personnes délinquantes, les personnes racisées, enfin toutes les personnes qu'on n'a pas envie de voir, on les envoie de plus en plus loin du centre-ville, histoire qu'elles ne viennent pas faire tâche dans nos nouveaux centres de mégalopoles blanches, lisses et aseptisées qu'on voudrait mettre en place. Donc au passage, dans ces nouvelles tôles, on y installe les mêmes technologies sécuritaires qu'on expérimentera après dans le reste de la ville. Des contrôles généralisés, le fichage des individus, la vidéosurveillance, la biométrie, etc. Et bien évidemment, Lyon ne fait pas exception à cette logique. Maintenant que toutes les tôles du centre-ville ont été vidées de leurs anciens occupants et de leurs anciennes occupantes, donc notamment l'ancienne prison pour femmes de Montluc qui a été transformée en commissariat, c'est pratique l'architecture carcérale, et ben ça laisse de formidables opportunités pour les promoteurs et les autres rapaces qui se font du fric sur le dos des gens. Surtout que Saint-Joseph et Saint-Paul, c'est idéalement situé pour des promoteurs avides de fric. C'est juste à côté de la gare Perrache, à l'entrée du nouveau quartier Confluence. Donc Confluence, c'est le nouveau quartier entièrement dédié à la mégalomanie des classes dirigeantes. C'est l'équivalent local de la presqu'île de l'avenir de Grenoble, tout en verre, en béton, en panneaux lumineux, complètement dénué de vie ou d'un quelconque intérêt. Donc à Saint-Paul-Saint-Joseph, c'est le promoteur OGIC, donc à travers un groupement qui inclut l'Université catholique de Lyon et le bailleur dit social, habitat et urbanisme, qui remporte la mise. Sur ce lieu d'enfermement et de violence, il va donc désormais construire d'un côté les nouveaux locaux de l'Université catholique. Remarque, passer d'un endroit voué à la pénitence et à la rédemption à une université catho, quelque part, il y a une certaine logique. Et de l'autre, un formidable projet immobilier, évidemment entre guillemets, réunissant des commerces, des bureaux, des immeubles en accession sociale. C'est un truc pour faire croire qu'on fait du social alors qu'en fait on pousse les classes moyennes à devenir propriétaires et à s'endetter. Et un immeuble intergénérationnel où habiteront des étudiantes et des personnes âgées. Donc à grand renfort de verre, de béton, de pelleteuse et de dynamite, on va transformer ces prisons horribles et vétustes en un nouvel espace, je cite, ouvert, moderne, communicant, selon la nouvelle langue de ses concepteurs et de ses conceptrices, pour la modique somme de 150 millions d'euros, ce qui laisse supposer qu'ils vont s'en mettre bien plus dans la poche au passage. Donc ce projet est révélateur de l'hypocrisie actuelle en termes d'aménagement du territoire. Il faut quand même avoir vraiment pas de latch pour proposer de construire des immeubles de standing sur d'anciennes prisons, qui plus est en se vantant de garder le côté panoptique, c'est-à-dire que n'importe où on se trouve, on reste toujours visible des autres, il n'existe aucun angle mort. C'est vrai que c'est pratique dans la société de contrôle dans laquelle on vit.
Tu veux dire qu'en fait, ils ont repris ce truc qui est complètement central d'architecture des prisons, de contrôle permanent, pour dire « Ah, regardez comme c'est bien, on va faire la même chose dans notre nouveau projet ».
Tout à fait, et ce sera beaucoup plus facile pour communiquer et se rencontrer. Mais donc ils vont aussi conserver une partie des blocs de cellules pour l'aspect patrimoine. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout pour se rappeler des souffrances des personnes qui ont été enfermées, c'est juste pour que les étudiants en histoire de l'art puissent venir admirer cette architecture complètement impressionnante et enfermante. Et tout le reste, du coup, ça va être des habituelles galeries en verre, en béton et en sol glissant que l'on voit partout. Les architectes et les urbanistes à deux balles de ce projet se vantent même de faire de ce lieu d'enfermement un lieu où il est facile et agréable de circuler, avec une vue sans pareille sur les quais de Rhône. C'est sûr que les détenus devaient apprécier la vue sur les quais de Rhône et les cours de promenade exiguës. Ah oui, et évidemment, il y aura aussi des jardins pour rendre cela plus agréable. Enfin, certainement des jardins dans lesquels on n'aura pas le droit de jouer au ballon, de cueillir des fleurs ou même de s'asseoir dans l'herbe. Et alors, pour célébrer la lancée de ce grand projet et faire oublier définitivement que des gens ont été enfermés, ont souffert et sont morts dans ce lieu, il a été ouvert une dernière fois lors des dernières journées du patrimoine en septembre. Une poignée de visiteurs et de visiteuses triés sur le volet ont pu visiter les anciennes prisons et découvrir en même temps le travail du dernier artiste gratte-merde à la mort qui avait séjourné dans ce lieu vide pendant quelques temps et était donc capable d'en faire ressortir toute la beauté et la conscience, mieux que les personnes qui ont été détenues mais qui, eux, ne sont pas des artistes et de toute façon, on s'en fout de ce qu'elles ont à dire, c'est juste des délinquantes. Donc cette poignée d'âmes sensibles et humanistes a donc pu s'émerveiller une dernière fois du travail architectural fait pour broyer les individus dans leur corps et dans leurs esprits, tout en ressentant quand même un peu de peine et de compassion pour les pauvres âmes égarées qui étaient passées par là, mais heureusement entre-temps, les lieux avaient été nettoyés, il paraît que même les rats étaient partis. Bref, tout ça pour dire que la logique de construction, d'aménagement des prisons fait également partie d'une volonté politique bien plus large d'aménagement du territoire. Si les pauvres et les délinquants sont repoussés en périphérie des villes, on profite des anciennes structures d'enfermement pour répandre une architecture carcérale et un urbanisme sécuritaire à l'échelle de toute la ville. Finalement, bientôt, c'est la ville elle-même qui sera devenue une prison, mais avec des beaux jardins et des façades en verre pour faire passer la pilule.
Je voulais parler du dernier numéro de L'Envolée. En fait, on en parle maintenant, mais ça fait un petit moment qu'il est sorti. Il date du mois d'octobre. L'Envolée, on peut redire que c'est un journal qui paraît depuis des années déjà. Un journal contre la prison et contre l'enfermement et contre ce qui fait que ce monde a besoin de prison pour se maintenir. C'est un journal qui est constitué principalement de lettres qui viennent de l'intérieur et qui parlent des réalités quotidiennes de l'enfermement et aussi de ce qui se passe dans les différents lieux d'enfermement. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire circuler les infos entre l'intérieur et l'extérieur pour pouvoir renforcer les luttes et la solidarité, et aussi de faire circuler les infos de tôle à tôle. Donc c'est un journal qui est disponible à Grenoble, notamment au local autogéré, qui se trouve 7 rue Pierre Dupont à Grenoble. Dans ce numéro-là, par exemple, il y a un certain nombre de textes qui reviennent plus particulièrement sur ce qui s'est passé ces derniers mois au centre de détention de Roanne. Il y a aussi des textes qui parlent un peu de qu'est-ce que ça veut dire que d'être enfermé à Annelin, à Argentan, à Ducos aussi. Parce que ces derniers mois, il y a des textes qui sont sortis de ces tôles en prenant la forme de pétitions pour parler en fait de comment c'est la misère en fait l'enfermement là-bas au niveau des conditions de l'incarcération et puis juste de l'enfermement en tant que tel, et pour pouvoir faire changer un peu cette réalité-là de l'intérieur. Il y a aussi un texte qui revient un peu plus précisément sur ce qui s'est passé lors du procès où sont passées des personnes qui étaient accusées d'avoir été à l'initiative d'un mouvement de révolte à Vézin-le-Coquet. C'est une tôle qui est près de Rennes. Et du coup, c'est des trucs dont on avait parlé au printemps dernier. Voilà, donc c'est un numéro qui peut se trouver à Grenoble. Et voilà, on avait envie d'en parler.
Et si vous voulez des exemplaires de ce numéro, c'est aussi possible de nous demander de vous les faire passer. Et on peut vous les envoyer. On va enchaîner avec encore un autre montage issu de l'émission Méga Combi. Donc c'est un extrait de l'interview de Kamel, donc qui nous raconte un peu ses conditions d'incarcération, comment ça se passe pour lui, sa détention, et qu'est-ce qui fait qu'il a toujours la niaque à l'intérieur.
Ouais, Kamel. Comment ça va?
Comme un prisonnier, mon quotidien il est un peu toujours pareil. Il y a un peu de sport, aller à mes activités quand il y en a et quand elles sont intéressantes. Aller à la bibliothèque. En prison, je vois pas comment on peut améliorer les conditions de détention, parce que tu sois dans une grotte ou dans un palace, du moment que t'es enfermé.
C'est le fait de savoir que tu vas sortir un jour qui te fait tenir à l'intérieur?
Ah non. Enfin, en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, en fait, même dehors, en fait, je me sens pas totalement libre, je me sens un peu emprisonné dans des cases qu'on aimerait m'imposer. Parce que quand je vais sortir, je vais pas avoir le droit, en fait, comme monsieur tout le monde, de faire ce qu'il a envie. De partir s'il a envie de partir, voyager s'il a envie de voyager. Moi, si je sors, je vais avoir des conditions, je vais avoir des contraintes. On va m'imposer, en fait, le fait d'aller travailler, peut-être un suivi psychiatrique. On va me demander de voir un juge d'application des peines de temps en temps. Donc voilà, même dehors, en fait, j'aurais pas vraiment l'impression, en fait, d'être totalement libre, en fait, et d'être de ne plus être dans une prison, en fait. Et ce qui me fait tenir, en fait, c'est que tout ce que j'ai pris dans ma gueule, eh ben, c'est pour rien, non, ben non, c'est pas pour rien. Si j'ai pris dans ma gueule, c'est parce que j'ai toujours voulu avancer, toujours aller, en fait, dans le sens de mes idées et pas les mettre de côté. Et j'ai des proches, en fait, aussi, qui m'aident, me soutiennent quand j'en ai besoin, parce que c'est pas toujours facile, c'est pas tous les jours, en fait, qu'on a envie de tenir le coup, c'est pas tous les jours non plus qu'on a le moral. Mais je pense, en fait, que d'autres gens dehors, ils font la même chose, en fait. Ils luttent chaque jour, en fait, pour essayer de survivre, quoi. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un, en fait, qui se laisse aller et qui se laisse marcher dessus, donc l'acharnement, en fait, des matons, en fait, quand ils ont décidé, en fait, de s'acharner sur un détenu parce que il l'aime pas ou parce que, en fait, eh ben, il se plie pas. Ben, voilà, ils mettent toute leur machine en marche et leur machine, elle va la simple sanction, un avertissement jusqu'à un isolement où t'es tellement isolé de tout et où ils essayent, en fait, de te faire perdre tous tes repères pour que, à la fin, ben, tu les supplies, en fait, de leur dire ben, remettez-moi avec tout le monde, j'ai compris. Tous les types, justement, en fait, qui passent quasiment des années, en fait, au mitard. Parce que c'est des insoumis qui refusent, en fait, totalement, en fait, de se plier, en fait, aux règles des établissements. Eux, ils sont dans une lutte perpétuelle et ça finit, en fait, où ces types, ben, ils sont à l'isolement. Et son isolement, ben voilà, on n'en entend plus parler, on ne sait plus ce qui se passe. On ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. Moi, je le regrette un peu. On ne parle pas de tous ces gens qui luttent tous les jours, en fait, en prison et qui ne se laissent pas détruire, en fait, par une machine.
Alors voilà pour le témoignage de Kamel. Et maintenant, on va enchaîner avec quelques brèves anticarcérales. Juste pour dire que c'est des brèves qu'on a envie de relayer parce que c'est des nouvelles de choses qui se passent dans les prisons et qui nous font plaisir parce que c'est toujours des signes soit de rébellion contre l'autorité ou des tentatives d'évasion ou en tout cas plein de gestes qui nous parlent et qu'on a envie de soutenir et de relayer.
Voilà, alors on va commencer par des attaques de matons qui ont été relayées dans les journaux, notamment récemment, là pour le mois de décembre, à Villeneuve-les-Maglones, donc c'est dans l'Hérault. On apprend que deux gardiens de prison ont été blessés lors d'une échauffourée à la prison, le 5 décembre. En fait, c'est des faits qui se sont passés à l'issue d'un parloir. Une fois remonté à son étage, il y a un détenu qui a commencé à taper sur les portes des cellules. Un gardien lui a ordonné de regagner sa geôle et il a fini par le faire. Et quelques minutes après, un gardien a ouvert la cellule en question pour servir la gamelle au détenu. Et ce détenu attendait le maton avec la fourchette à la main, qui a servi d'arme. et qu'il aurait utilisé contre le surveillant. Les collègues du surveillant sont intervenus et auraient été blessés à cette occasion. Et le journal dit aussi que le détenu était sorti la veille du mitard. Donc ces éléments, on les met au conditionnel parce qu'on n'a pas vraiment confiance dans la manière dont la presse rapporte ce genre d'événements. C'est-à-dire que c'est des événements qui sont toujours tournés au profit des autorités, qu'il s'agisse de flics ou de matons ou d'autres représentants du pouvoir. On a toujours l'impression que les pauvres surveillants se sont fait lâchement agresser par un détenu qui était en furie. Alors peut-être c'est le cas, mais ce qu'on veut quand même souligner, c'est que là, en l'occurrence, les matons, c'est... Les matons, ils sont en nombre, c'est eux qui imposent leur discipline, c'est eux qui ont le pouvoir de contraindre les prisonniers, c'est eux qui sont armés aussi, ce qui n'est pas le cas des prisonniers. Et qu'en fait, on peut imaginer mille raisons qui peuvent amener à ce genre d'acte. La première, c'est tout simplement le fait d'être enfermé et de se retourner contre ceux qui sont tes bourreaux, contre ceux qui ferment la clé sur toi à la fin de chaque journée, et que en plus de ça peuvent se rajouter l'accumulation des brimades au quotidien qui sont liées au fait d'être enfermé. On a entendu une histoire similaire d'une attaque de maton fin novembre à Fleury-Mérogis, donc là par un détenu qui était placé en isolement et qui a sorti une fourchette limée en récupérant son plateau, et qu'il a porté des coups au torse d'un gardien, et qu'un autre en aurait reçu aussi en voulant sauver héroïquement, entre guillemets, son collègue, n'est-ce pas ? Et ce que les journaux ne disent pas, bien sûr, c'est que les prisonniers qui se révoltent de cette manière-là, en général, ils le payent très cher, et que c'est par exemple une histoire qu'on avait relayée au printemps, là, d'un détenu qui était accusé d'avoir agressé des surveillants. Et il s'avère en fait que quand il y avait eu un peu plus d'infos qui étaient sorties sur cette histoire, c'est un détenu qui se faisait mettre la misère depuis un certain temps par les surveillants qui lui empêchaient de sortir en promenade, et qu'à un moment donné, il a demandé des comptes là-dessus. Et qu'en fait, c'est parti en vrille, mais c'est parti en vrille aussi parce qu'il s'est fait complètement latter par les héris qui étaient en nombre. Et que suite à ça, il a pris un mois de mitard, et qu'il est passé en procès, et qu'il a pris 2 ans ferme. Donc on l'accusait d'avoir balancé un frigo. Donc tout ça pour dire qu'il y a d'autres infos qui sont sorties, justement parce qu'on parle de ces faits-là et du fait que les prisonniers qui se rebellent le payent cher par la suite, et que ça nous semble d'autant plus important de pouvoir développer de la solidarité sur la base de ces faits-là, en fait. Et que justement, il y a 2 infos qui sont sorties dans le journal récemment par rapport à des faits qui s'étaient produits au début de l'année dernière. Et notamment, en juin 2011, il y avait un prisonnier mineur qui venait d'être transféré à la maison d'arrêt de Chambéry et qui avait été accusé d'avoir agressé un surveillant en lui posant un couteau sous la gorge et en l'entaillant. Et en fait, cette personne, donc ce prisonnier, est passé en jugement pour ces faits-là. Il a été accusé de tentative d'assassinat. Et il a été condamné à 8 ans ferme de prison. En plus de ça, le journal précise qu'une fois la peine purgée, le prisonnier a l'obligation de se soumettre à des soins pendant 7 ans. Et que si ce n'était pas le cas, il pourrait être réincarcéré pendant 2 ans. On apprend aussi que un autre prisonnier est passé en procès par rapport à des faits qui s'étaient passés en mai 2011. Donc c'est quelqu'un qui était détenu à la maison d'arrêt de Valence et qui avait mis le feu à sa cellule. En fait, le journal explique que Le journal explique qu'en fait, il avait agi sous le coup de la colère parce que la chef de détention de la maison d'arrêt voulait le faire mettre en cellule avec d'autres détenus. Lui, il refusait ça et donc il avait été conduit manu militari dans cette cellule-là que pour se rebeller face à ce qui lui était imposé. Quelques minutes après, il avait mis le feu à sa cellule. Et que donc il passe devant la cour d'assises de la Drôme. Il est accusé de destruction d'un matelas, de draps, de couvertures et d'une cellule de la maison d'arrêt de Valence et de l'administration pénitentiaire par l'effet d'un incendie. Voilà, ça c'est leur jargon à la con. Tout ça pour dire qu'en fait, il a été condamné à 8 ans de prison ferme pour ces faits-là et que ça nous parle en fait que c'est quelqu'un qui s'est... qui n'a pas fermé sa bouche face à ce que l'administration pénitentiaire voulait lui imposer, qui a posé des actes en fait face à ça et qui s'en mange dans la gueule. Et que en fait, ces faits-là, on a envie de les relayer aussi pour encourager les gens qui auraient connaissance d'infos de ce genre-là ou de celle-là avec plus de détails à pouvoir nous contacter pour en parler, pour donner des infos qui ne seraient pas la version des flics ou des matons. Et qu'en général, on se rend compte qu'il y a des événements ou des éléments qui sont assez différents, qu'on ne sait pas... les matons qui en parlent et que on a envie de pouvoir développer de la solidarité par rapport à ça.
On a plus trop de temps, alors je voulais quand même avant la fin de l'émission parler d'une info qu'on a reçue via différents sites internet, donc notamment Indymedia, Grenoble et Rebellion.info. Donc une action de solidarité avec les prisonniers et prisonnières qui a eu à Roanne le 26 novembre. Donc il y a eu des perturbations et blocages d'axes de circulation dans la ville de Roanne avec des banderoles qui ont été déployées qui disaient « Solidarité avec les luttes de prisonniers et prisonnières et abat toutes les prisons que vivent les révoltes ». Il y a également un tract qui revient sur l'implantation du centre de détention de Roanne et sur tous ceux et toutes celles qui en tirent profit et sur l'ignominie de l'enfermement qui a été distribué à 500 exemplaires dans les boîtes aux lettres de différents quartiers de la ville. Donc on va pas vous lire le tract parce qu'il est un peu long, mais voilà, on voulait juste relayer cette info.
Et puis dire que de toute façon, le contenu du tract, il est aussi disponible sur rebellion.info ou d'autres indie médias.
Et alors dans les autres brefs qu'on a eues, on a eu l'écho de... donc à la prison de Louvain en Belgique, il y a eu un incendie de cellules. Donc ça s'est passé après un entretien entre le maton et la direction. Et que suite à cet incendie, toute l'aile de la prison a dû être évacuée et la personne qui a foutu le feu a été arrêtée par les flics et foutue au cachot. Sachant que un peu plus d'une semaine avant, à Audenard, donc dans une autre tôle, il y avait aussi eu une altercation entre un détenu et plusieurs matons. Et un des matons avait été attaqué avec un rasoir. Et donc une dizaine de matons étaient intervenus et ont attaqué le détenu, l'ont roué de coups. Il a dû subir une douzaine de points de suture et il a fait plusieurs jours de cachot. Donc cette information a été tue par les médias dominants, mais du coup elle a été relayée par d'autres biais, notamment les sites indie médias. Voilà, et à Roanne, toujours, au début décembre, une camionnette Eiffage a été incendiée dans la ville. Et quelques jours après, plusieurs litres d'huile ont été déversés sur la route menant au centre de détention, avant l'heure de la relève des matons. Ce qui a nécessité un nettoyage de la chaussée et bloqué la circulation des matons qui prennent leur service ou rentrent chez eux durant le temps du nettoyage.
On voulait aussi donner vite fait des chouettes nouvelles d'évasion, notamment en Suisse dans une prison pour mineurs, une triple évasion. Deux évasions en Belgique à la prison de Saint-Gilles, à Marseille aussi, dans le centre de rétention administrative, quelqu'un qui a réussi à prendre la poudre d'escampette, et à Troyes. Tout récemment, à l'aube du 16 décembre, c'est des détenus qui ont scié les barreaux tôt le matin, qui ont escaladé, se sont mis dans la cour de promenade, et quand le surveillant a ouvert la porte pour faire entrer ses collègues qui prenaient le service, les détenus ont déboulé et se sont sauvés en courant. Ça nous fait bien plaisir, ma foi.
Et apparemment, ces détenus-là, à l'heure où on enregistre l'émission, ils n'ont toujours pas été retrouvés, du coup on leur souhaite bon vent.
On va terminer rapidement parce que on est à la bourre. On voulait redonner nos coordonnées pour que ceux qui le souhaitent puissent rentrer en contact avec nous. Donc on a une adresse postale, c'est Les Murs ont des oreilles sur Radio Kaléidoscope, boîte postale 422 38 018 Grenoble CEDEX.
Sinon il y a une adresse mail qui est lesmurs, tout attaché, lesmurs@riseup.net, lesmurs@riseup.net.
Et on voulait dire aussi que toutes les émissions peuvent être écoutées et téléchargées sur un blog dont l'adresse est la suivante, https://lesmurondesoreilles.noblogs.org, donc c'est .noblogs.org.
Voilà, et du coup, cette émission va être rediffusée lundi prochain à 19h sur Radio Kaléidoscope. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine émission.
Le troisième mercredi du mois.
Salut.
Salut.